Et c'est l'heure de la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucas.
Ce matin, la frontière de la discorde.
Oui, c'était il y a tout juste 50 ans. Le 6 juillet 1967 débutait au Nigeria une guerre civile dans la province sécessionniste du Biafra, dont on estime à près de 2,5 millions le nombre de victimes. Et bien un demi-siècle plus tard, des appels à une possible sécession font encore la une au Nigeria, et ceci presque tous les jours. Les tendances sécessionnistes perdurent dans plusieurs parties du pays. C'est ainsi, précise le site de la Deutsche Welle, qu'un récent appel du groupe de jeunes musulmans radicaux du Nord est intervenu sur fond de division ethnique, faisant écho au message sécessionniste et virulent du mouvement pour les peuples du Sud. Les démons du séparatisme sont donc toujours présents au Nigeria. Dans la province du Biafra en particulier, beaucoup d'enfants nourrissent aujourd'hui un sentiment de revanche. Et pourtant, rares sont ceux qui savent ou ont appris ce qui s'est réellement passé il y a 50 ans. Roy, 23 ans, raconte par exemple que le Biafra n'a jamais été au programme à l'école, sauf en sciences sociales. Dans un livre, il y a bien un chapitre à ce sujet, dit-il, mais il est très court, seulement 2 ou 3 pages. Un manque presque total d'informations, donc dans le but de faire ignorer au pays sa propre histoire, et qui contraste avec la couverture à l'époque de cette guerre pendant laquelle le photojournalisme en plein essor exposait largement aux populations occidentales le dénuement du tiers-monde, quitte à contribuer à forger l'image d'une Afrique en proie au conflit et à la famine. Roy, lui, a surtout beaucoup appris en réalité de son père, lui-même enfant soldat lors de la guerre. Il est au fond, conclut l'article, à l'image de toute cette génération de Nigérians qui a grandi avec des histoires de guerre partisane qui perdurent encore aujourd'hui sans qu'elles ne fassent plus à présent la une de l'actualité, sauf au Nigeria.
Direction à présent, une bande de terre dans la corne de l'Afrique où la paix menace d'être réduite à néant avec l'actuelle crise du Golfe.
Oui, c'est l'une des conséquences inattendues de la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le retrait des troupes qataries à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée a ravivé la tension entre les deux voisins de la corne de l'Afrique. Cette frontière, longue de 125 km, est l'objet d'une dispute depuis maintenant 2 décennies. Sauf qu'en juin 2010, un accord avait finalement été signé entre les deux pays sous l'égide du Qatar. Problème, l'Érythrée comme Djibouti sont aujourd'hui des alliés de l'Arabie Saoudite, d'où la décision récemment du Qatar de retirer ses forces d'interposition. Aussitôt la frontière libérée, l'Érythrée en a profité pour violer le statu quo ante en se rapprochant de la zone conflictuelle, une zone, rappelle la nation, qui appartient à la République de Djibouti et que l'Érythrée revendique de façon insensée. Alors évidemment, lorsque l'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, le sort de cette frontière dans la corne de l'Afrique ne figurait sans doute pas au cœur de leurs calculs géostratégiques complexes, note The Reporter, cité par le Courrier International. Reste qu'en cas de reprise des hostilités entre l'Érythrée d'un côté, considéré comme un état paria, et Djibouti de l'autre, terre d'accueil de plusieurs bases militaires étrangères, le quotidien d'Addis Abeba craint non seulement un impact économique pour l'Éthiopie, dont l'accès à la mer dépend de Djibouti, mais aussi pour le reste du monde. Cette frontière contestée a beau être aride et éloignée, elle n'en demeure pas moins un effet stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle surplombe le détroit à l'entrée sud de la mer Rouge. Or, plus de 10 000 bateaux empruntent ce détroit chaque année, transportant des dizaines de milliards de dollars de marchandises et notamment près de 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole.
Un autre conflit, vieux lui aussi de plusieurs décennies et dont les pourparlers de paix ont échoué à l'aube ce matin.
Oui, le marathon des négociations interchypriotes s'est conclu sans accord. Hébergé dans une station de sport d'hiver suisse depuis le 28 juin dernier, ces négociations, écrit Le Temps, étaient pourtant considérées comme la meilleure chance depuis de longues années pour mettre fin à la division de l'île en 1974. Antonio Guterres lui-même, le secrétaire général de l'ONU, avait parlé de discussions hautement productives, en vain donc, mais faut-il seulement s'en étonner? Le quotidien Philelefteros juge qu'il n'est pas besoin d'être un génie de la politique pour savoir que la pression exercée sur la patrie, la partie chypriote grecque, avait pour but d'imposer une demi-solution qui aurait perpétué de facto la présence de l'armée turque sur l'île. Dès lors, les deux seules options auraient été soit une solution dictée par la Turquie, mais rejetée par les chypriotes grecs, soit un rejet tout court de la proposition, quitte à couvrir Nicosie de honte. De son côté, le quotidien Euryet Daily News note que toute solution réelle aurait été impopulaire dans les deux camps, mais après tout, ne sont-ce pas les décisions de cette envergure qui forgent les véritables leaders. Enfin, pour le quotidien en ligne Tovima, la conclusion à tirer de ce nouvel échec n'est pas seulement pessimiste, elle est résolument belliqueuse. Il faut se rendre à l'évidence, dit-il, les Turcs ne quitteront jamais Chypre. À présent, le seul moyen possible est qu'ils partent comme ils sont venus, en les expulsant par le recours à la violence militaire.
Et après n'avoir pu que constater l'échec donc de ces négociations chypriotes, le secrétaire général de l'ONU a décollé ce matin pour le G20 en Allemagne, à Hambourg.
Oui, Hambourg, où des affrontements ont éclaté hier soir entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police. La manifestation qui a dégénéré avait été organisée sous le slogan « Welcome to Hell », bienvenue en enfer. Le titre évidemment provocateur est d'ailleurs repris en une ce matin sur le site du Daily Beast, quand le Berliner Morgenpost estime lui que Hambourg se prépare à l'état d'urgence. Son confrère de Vienne, Der Standard, prévient « avis de tempête sur le monde », d'autant qu'un autre grand rassemblement à l'initiative de la mouvance d'extrême-gauche antifasciste est d'ores et déjà prévu demain en fin de matinée. Ce mouvement appelle à la résistance contre les anciennes et les nouvelles formes de pouvoir du capitalisme avec un seul mot d'ordre, non au G20, solidarité sans frontières.
Le G20, on en parle dans 10 minutes avec nos invités Pierre Aski et Jean-Paul Chang. Merci Thomas Cluzel.